17. Le shérif John Ashworth arriva à Dupré à 18h20. À 2000 km de là, au nord, les enfants hébétés déposaient des cigarettes et des allumettes dans des paniers et pénétraient en file indienne dans une salle de projection pour voir un film dont la vedette était le prédicateur d'une méga-église de l'Indiana qui possédait de nombreux amis influents en politique. Le shérif s'arrêta sur le seuil et, les mains sur ses hanches rembourrées, balaya du regard la grande salle principale du poste. Il nota que toute son équipe était présente, à l'exception de Ronnie Gibson, en vacances dans la location en temps partagé de sa mère à Saint-Pétersbourg. Tim Jamison était là lui aussi.
« Eh ben, salut à tous, » dit-il. « Ça ne peut pas être un anniversaire surprise, vu que c'est pas mon anniversaire.
Et lui est là, c'est qui ?»
Il montra du doigt le garçon qui dormait, allongé, recroquevillé plutôt, sur le petit canapé de la salle d'attente. Et se tourna vers Tag Faraday, l'adjoint de garde.
« Et je pourrais savoir accessoirement qui l'a tabassé ?»
Au lieu de répondre à ces questions, Tag se tourna vers Tim en faisant un large geste de la main qui semblait dire « Après vous ». « Le garçon se nomme Luke Ellis et personne ici ne l'a tabassé », expliqua Tim. Il a sauté d'un train de marchandises et a percuté un poteau de signalisation, d'où ses hématomes. Quant au pansement, il affirme qu'il a été kidnappé et que ses ravisseurs lui ont installé un traceur dans l'oreille. Il dit qu'il s'est tranché le lobe pour s'en débarrasser.
« Avec un couteau à viande », précisa Wendy.
« Ses parents sont morts », ajouta Tag. « Assassinés. Ça au moins, c'est vrai, j'ai vérifié. Ils ont été tués dans le Minnesota. »
« Mais il prétend que l'endroit d'où il s'est échappé se trouve dans le Maine », ajouta à son tour Bill Wicklow.
Ashworth demeura muet un instant, les mains toujours sur les hanches. Il regarda ses adjoints, son veilleur de nuit, puis le garçon, que cette conversation n'avait pas réveillé. Il dormait à point fermé. Finalement, le shérif reporta son attention sur son équipe rassemblée.
« Je commence à regretter de ne pas avoir dîné avec ma mère. »«
Elle n'allait pas bien ?» demanda Bill.
Ashworth ignora cette intervention.
« En supposant que vous n'avez pas tous fumé de l'herbe, est-ce que je pourrais avoir droit à une histoire qui tient debout ?»«
Asseyez-vous, » dit Tim.
« Je vais vous faire un topo, et ensuite je pense qu'on devrait regarder ça. »
Il déposa la clé USB sur le bureau du standard. « À partir de là, ce sera à vous de décider. »
« Vous pourrez peut-être appeler les flics de Minneapolis ou la police d'État de Charleston ?»
suggéra l'adjoint Burkett.
« Ou même les deux ?»
Il désigna Luke d'un mouvement de tête.
« Qui se débrouille avec lui ?»
Ashworth s'assit.
« Réflexion faite, je ne regrette pas d'être entré plus tôt. C'est intéressant, vous trouvez pas ?»«
Très, » dit Wendy.
« Généralement, il se passe pas grand-chose d'intéressant par ici. Ça change. Les flics de Minneapolis pensent qu'il a assassiné ses parents ?»
C'est ce que laisse croire la lecture des journaux, dit Tag. Mais ils y vont mollo, vu que c'est un mineur.
Il est incroyablement intelligent, précisa Wendy. Mais à part ça, il a plutôt l'air d'un gentil garçon.
Savoir s'il est gentil ou méchant, ça sera pas à nous d'en décider au bout du compte. Mais cette histoire a éveillé ma curiosité. Bill, arrêtez de jouer avec cette pointeuse avant de la casser et allez me chercher un coca dans mon bureau.